Alors, si vous voulez tourner dans vos Bibles. Alors, dans vos Bibles, si vous voulez tourner dans Galates. On va tourner dans Galates, chapitre 5. Et ce matin, on va regarder de plus près les versets 16 à 18. Donc, Galates 5, versets 16 à 18. Et je suis un peu comme en deuxième partie hein, du message que j'avais prêché sur la chair versus l'esprit. Paul en a beaucoup à dire sur ces versets-là. Et aujourd'hui, on va regarder de plus près les versets 16 et 17. Et pas la semaine prochaine, parce que je ne serai pas ici la semaine prochaine, c'est notre frère Daniel qui prêche. Probablement en début d'année, on va conclure ce passage-là qui parle du combat que la chair a avec l'esprit. Alors, Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Père Céleste, cette parole inspirée de Paul nous amène devant un fait réel dans nos vies, dans la vie de ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire le combat de notre chair avec le Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, que l'on puisse vraiment, avec des cœurs humbles, reconnaître les faiblesses de notre chair. Et qu'on puisse en même temps voir la puissance de l'Esprit Saint qui vit en nous. Que l'on puisse marcher, comme Paul dit, selon l'Esprit. Marcher chaque jour de plus en plus jusqu'à ce que tu reviennes. Marcher par l'Esprit ou selon l'Esprit. Alors, Père, bénis cette prédication ce matin. Bénis les frères, les sœurs qui sont ici. Bénis ceux qui sont ici comme visiteurs ou personnes qui viennent nous voir, que tu puisses parler à nos cœurs par le nom, le précieux nom de notre Sauveur Jésus. Amen. En parlant de notre liberté, hein, vous savez que, comme chrétiens, nous avons cette liberté-là en Jésus-Christ. Et le thème de l'Épître aux Galates est évidemment la liberté en Jésus-Christ. Mais Paul, en parlant de cette liberté-là en Christ, veut nous prévenir des dangers et des désirs de la chair. Et en fait, ce que Paul dit, c'est qu'il ne faut pas utiliser notre liberté en Jésus-Christ comme étant un prétexte, une excuse pour vivre selon la chair. Et comme vous êtes en Galates, on va regarder juste avant, hein, que j'ai prêché quelques semaines passées, le verset 13, Galates 5, 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté-là un prétexte de vivre selon la chair. » Faisons pas de cette liberté-là que nous avons en Jésus-Christ comme étant, n'utilisons pas ça, c'est-à-dire comme étant un prétexte que je peux faire n'importe quoi. Mais Paul dit, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. La liberté chrétienne n'admet pas le péché. Vous allez me dire, bien, on est encore des pécheurs. Je vais y revenir. Notre liberté chrétienne, elle encourage plutôt à servir Dieu, à servir nos frères, nos sœurs dans le Seigneur, dans l'amour. Et cet amour-là est compris comme étant le mobile. Le mobile de tout le comportement chrétien. L'amour, c'est le mobile de tout comportement chrétien. Alors que sous la loi, le mobile, c'est quoi? C'est la crainte de se faire punir. Pas la même chose, là. L'amour. L'amour versus la crainte. La liberté des chrétiens est en Jésus-Christ, comme Galates 2,4 le dit. Hein? En cela, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté, Paul dit, hein? En Galates 2,4, que nous avons en Jésus-Christ. Donc, cette liberté-là, elle exclut toute idée qu'elle pourrait être une liberté de péché. Pensez pas ça. Que parce que nous sommes libres en Jésus-Christ, mais que j'ai toutes les permissions du monde pour pécher. On ne doit jamais faire de la liberté chrétienne la base d'opération pour la chair. C'est inadmissible. Notre liberté qu'on a tous en tant qu'enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau ce matin, vous avez cette liberté-là. Eh bien, elle peut s'épanouir de cette façon. Et c'est une phrase là, qui dit ceci. Habituons-nous à être les serviteurs les uns des autres. Pas toujours facile, ça. Hein? Pas toujours évident. C'est plus facile d'écouter sa chair puis de dire, ben, oh, je pense que on va rester couché un matin. Voilà, j'ai d'autres choses de plus intéressantes. Il y a un bon programme à la télévision. C'est pas ça. C'est la liberté qu'on a, si on veut qu'elle s'épanouisse à travers nous, c'est qu'on doit s'habituer à être des serviteurs. Je sais que le mot sonne pas bien des fois dans les oreilles des gens, mais être des serviteurs, pas des esclaves. Dans un sens, oui, mais dans un autre sens, non. On est des serviteurs les uns des autres. Ensuite de cela, il faut prendre garde, Paul dit, au verset 15 de Galates, de ne pas se détruire les uns les autres. Et regardez bien le passage qui dit ceci. « Mais si vous vous bordez et vous dévorez les uns les autres. » Ça veut dire qu'il va y avoir des occasions où probablement qu'on va se mordre. Hein? Ça arrive. Mais là, Paul, il dit « Prenez garde. Faites attention que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Donc, si on encourage les disputes, le fait de se mordre, le fait de se dévorer les uns les autres, si on accepte ça comme moyen de vie, le grand risque est ceci, c'est qu'on va être détruit. On va se détruire. Le légalisme, c'est ça que John MacArthur dit, engendre sans aucun doute la querelle. Hein, les gens qui disent « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, da-di, da-da », ça peut engendrer des querelles. Et c'est ce que, étrangement, est arrivé en Galatie dans les églises des Galates. Hein, c'est étrange, hein? Regardez bien. Il y a des gens, là, ces gens-là, là, qui voulaient sortir de ce que Paul avait dit. Autrement dit, ils voulaient devenir des gens qui marchent selon la loi. Donc, ceux qui voulaient vivre sous la loi, c'est drôle, hein? La loi leur demande d'aimer leur prochain. Hein, si on lit les 10 commandements, là, en réalité, là, les 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et puis ainsi de suite. Mais tous ces commandements-là, là, tu ne voleras point, c'est parce que tu aimes ton prochain. Hein? Tu convoiteras point, c'est parce que tu l'aimes et tu ne veux pas convoiter ces choses. Ces gens-là avaient comme commandement de s'aimer les uns les autres, mais c'est le contraire qui s'est produit. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont mutuellement diffamés, déchirés les uns les autres. Et vous savez quoi? Ce genre de comportement dans l'Église, ça vient de la chair. Et ce qui vient de la chair, la loi en fait appel. Et elle agit. Comment peut-on éviter les influences destructives de la chair? Comment est-ce qu'on fait? Paul est clair ici. Et si vous voulez retourner au verset 16, hein, on va aller au verset 16 et 17. Paul dit, je dis donc, et c'est un commandement, hein, marchez selon l'Esprit. En tant que chrétien, on n'a pas le choix. Marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on cherche à marcher par l'Esprit, les désirs de la chair, on ne les accomplira pas. Parce que la chair a des désirs contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, on doit marcher selon l'esprit, et ensuite, on doit être conduit par l'esprit. Hein? Ça, c'est le verset 18 qu'on va voir plus tard. Hein? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Un matin, on va regarder plutôt ce qu'il y a de marcher. Vous allez me demander pourquoi est-ce si important pour un chrétien de savoir ces choses-là? Bien, premièrement, c'est parce que c'est dans la Bible. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Deuxièmement, c'est ce qui va nous aider justement à laisser cette chair-là de côté, à comprendre que lorsqu'on vit sous la chair, on se détruit. On ne peut pas être un chrétien si on veut continuellement marcher selon la chair. Oui, on va avoir des désirs qui sont trompeurs. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais si on veut continuellement, c'est impossible. Et ensuite, vous allez me demander que signifie marcher selon l'Esprit, c'est ce qu'on va voir. Et ensuite, celui qui est conduit par l'Esprit, comment est-il? Et ça aussi, on va le voir. Donc, d'après notre texte ce matin, et on a deux versets, on observe quant à la chair et l'Esprit qu'ils sont opposés, c'est-à-dire contraires l'un de l'autre. On a ici deux adversaires qui combattent pour posséder notre âme. Y en a-tu qui vivent pas ce combat-là? Je pense pour elle. Il y a toujours des temps où c'est difficile. On a vraiment un combat. Regardez bien la première partie de Galates 5, 17. Oh. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et combien de fois cette chair-là, veut nous faire le contraire de ce que Dieu demande. L'esprit et la chair sont en conflit continuel. C'est un combat continuel. Regardez bien ce qui est intéressant ici. Vous allez tout dire pourquoi Dieu n'a pas fait ça. Dieu aurait pu délivrer le croyant de sa nature pécheresse. Hey, ça aurait-tu été le fun? Délivrer complètement de notre nature pécheresse. Pourquoi qu'il ne l'a pas fait? Bien, au moment de notre conversion, il n'a pas choisi de le faire parce que Dieu voulait que le croyant se rappelle continuellement sa propre faiblesse, reconnaître notre propre faiblesse. Reconnaître aussi que l'on dépend continuellement de Christ, notre sacrificateur, celui qui intercède pour nous auprès du Père. Et afin qu'on puisse louer Dieu sans cesse, de louer celui qui nous a sauvés. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que l'on garde cette nature pécheresse-là. Et cette nature-là, bien, on va en être délivré lorsqu'on sera au ciel avec le Seigneur. Mais pour l'instant, on doit vivre avec. Pour l'instant, on est dans cette lutte, dans ce combat-là, à tous les jours. Donc, au lieu d'enlever notre vieille nature, Dieu nous a donné son Saint-Esprit, hein, le Consolateur. Ce Saint-Esprit-là qui habite dans le cœur de chaque chrétien. L'Esprit de Dieu et notre chair sont continuellement en guerre. Et ils vont continuer à l'être, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous soyons enlevés ou jusqu'à ce qu'on meure et qu'on se dirige vers notre Père céleste. Donc, la part du croyant dans ce conflit-là, c'est de s'abandonner à l'Esprit. Seigneur, je ne suis pas capable. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas rien faire, mais je n'ai pas cette force-là pour combattre. J'ai besoin de l'Esprit Saint. Maintenant, l'esprit, évidemment, mentionné dans les versets 16 et 17, évidemment, on fait affaire avec l'Esprit Saint, ce n'est pas l'esprit humain. La raison pourquoi j'ai mis cette petite partie-là, c'est que il y a des dénominations qui vont enlever la puissance de l'Esprit Saint. Et ils vont croire que l'esprit qui est mentionné là, compte tenu qu'on ne marque pas Esprit Saint, bien, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, c'est effectivement l'Esprit Saint. Et il y a cette guerre-là, évidemment, comme on a pu voir. Bien, j'aimerais qu'on retourne voir dans deux versets, s'il vous plaît, dans 1 Pierre 2,11 et dans Romains 7,23. Alors, si vous voulez tourner dans 1 Pierre 2:11. Alors, l'apôtre Pierre, ici, dans sa première épître, va dire ceci. Il va dire, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » J'aime ça quand j'entends ça. C'est pas chez nous, ça. C'est pas chez nous, ici. Chez nous, c'est en haut, au ciel. Donc, il nous exhorte à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Encore là, on a le concept de cette guerre-là qui existe. Et Paul, dans Romains 7, 23, va dire ceci. Si vous voulez tourner dans Romains 7, 23. Paul va dire, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Et c'est comme ça que ça se passe dans le corps ou dans l'être d'un homme, d'une femme qui sont chrétiens, qui sont nés nouveaux. C'est ça qui se passe. Il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Le péché qui est dans mes membres. Et selon ces deux textes-là, 1 Pierre 2:11 et Romains 7, 23, puis aussi le contexte, il ne faut jamais oublier le contexte de ces passages, il est clair ici que l'on fait référence au Saint-Esprit. Le contexte de l'Épître suggère que ce soit le Saint-Esprit. Et on va regarder 3 références, si vous voulez. C'est toujours dans Galates. Hein? Galates 3, 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Par l'Esprit Saint ici. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par le Saint-Esprit ou l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Et enfin, chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit Saint, lequel crie « Abba, Père ». Donc, si jamais on vous questionne sur ces textes-là, vous avez quelques références ici qui vont justifier, c'est-à-dire le fait qu'on parle ici du Saint-Esprit. Et par l'Esprit Saint, nous attendons avec impatience l'espérance de la justice. C'est ce que Paul dit dans Galates 5, 5. On attend. On essaye d'être patient, mais on est impatient. On a hâte que le Seigneur revienne. Mais peut-être qu'on ne prie pas assez pour ça. Peut-être que l'Église, je parle de toutes les Églises en général, peut-être qu'elle est bien sur la terre. Peut-être qu'on est satisfait de ce qu'on a, puis de ce qu'on peut avoir, au lieu d'avoir les yeux fixés vers le haut. C'est probablement ça, peut-être, aussi, qui fait en sorte que le Seigneur retarde. Mais le Seigneur a son temps. Le Seigneur va venir en son temps. Et c'est seulement Dieu qui le sait, ce temps-là. Donc, on attend avec impatience l'espérance de justice. Et les arguments ultérieurs de Paul, et on va voir les versets qui vont suivre, c'est-à-dire, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si ça, là, ce passage-là, là, parlerait d'un autre esprit, bien, ça ferait plus de sens. Que l'esprit dont on parle ici, ce serait l'esprit humain. Mais je ne veux pas vous mélanger plus, là. Mais je veux juste qu'on comprenne ceci. On ne parle pas de l'Esprit humain ici, parce qu'on parle beaucoup de l'Esprit, on parle de l'Esprit Saint. Et dernièrement, juste avant de, pas de finir, mais enfin de terminer sur cet aparté-là de l'Esprit, l'Esprit Saint, la moisson de la vie éternelle, de l'Esprit. Hein? Regardez, tournez dans Galates 6, verset 8. Allez dans vos Bibles, dans Galates 6, verset 8. Hein? Paul dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Ça, c'est un fait. L'autre, mais celui qui sème pour l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, moissonnera de l'Esprit Saint la vie éternelle. C'est ça qu'on a à faire. Dans notre marche par l'Esprit Saint, on a à marcher selon le Saint-Esprit, annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a personne qui va le faire. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, là, bien, c'est bien simple. Il y en a d'autres qui vont le faire pour nous autres. Puis, il ne faudrait pas être surpris que peut-être une autre église s'élève et puis qu'il attire des gens. Parce qu'ils ont été sur le terrain. Puis, ils ont moissonné. Ils ont semé premièrement, puis là, ils récoltent. Donc, il faut conclure que tandis que la chair nous tire dans une direction, l'Esprit Saint, lui, il veut nous amener dans une autre direction. Ce matin, je veux qu'on réalise le tiraillement qui est en nous. On a tous dit tantôt, je n'ai pas demandé de lever la main, là, qu'on avait ce genre de combat-là. Donc, vous savez de quoi je parle. Ça va être là jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Soit qu'il vienne nous chercher, pendant qu'on s'élève vers lui. Donc, c'est important de comprendre cette lutte-là. Ensuite, un chrétien a à choisir. Il y a un choix à faire. Là c'est, on peut parler de choix. De servir soit la chair ou de servir le Saint-Esprit. Si on veut suivre les désirs de la chair, on ne peut pas faire la volonté du Saint-Esprit. Hein, Galates, la deuxième partie de Galates 5, 17, « Et l'Esprit en a de contraire à ceux de la chair. » C'est-à-dire que on ne peut pas avoir les deux. Suivre la chair, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que ça va nous enchaîner. Ça va nous placer devant un dilemme, un choix. Regardez bien. Tournez dans Romains 6, verset 12, 13, et on va regarder le verset 16. On va être devant un choix, un dilemme. Hein? Romains 6, 12, 13 et 16. Et Paul dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. On était mort avant, maintenant on est sauvé, on est vivant. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nos mains, nos pieds, notre cœur, notre façon d'agir, ça doit être des instruments de justice et pas des instruments pour faire le mal. Verset 16 de Romains 6, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est un choix. C'est quoi que je choisis? Ensuite, avec l'aide de l'Esprit-Saint, si c'est le choix qu'on fait, bien là, on va être capable de surmonter la chair. Et là encore, je vous demande de regarder dans Romains 8. Romains 8, versets 12, 13 et 14. Et Paul dit ceci, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. » Là, il parle à des chrétiens. Hein, frères, nous ne sommes pas redevables. On n'a pas à rendre compte à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, par des croyants, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Frères et sœurs, on se doit de marcher selon l'Esprit. Sinon, on va succomber au désir de la chair. Et je ne pense pas que c'est ce qu'on veut. En tant qu'Église, on ne veut pas être reconnu comme une Église charnelle. Marcher selon l'Esprit, ça veut dire de fixer nos regards et nos pensées sur les choses de l'Esprit. Encore une fois, je vais vous demander de tourner dans Romains. Romains 8. Et on va lire les versets 1 à 6. Romains 8. Mise avec mes pages. Romains 8, versets 1 à 6. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Vous savez que l'épître aux Romains est divisée en deux. Et là, on arrive à cette deuxième partie où il n'y a pas de condamnation, Paul dit. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon... Attendez une minute, là. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Écrivez ce passage-là dans vos notes. Pour le relire tranquillement cette semaine. Si vous avez des Bibles français courant ou les Bibles d'études, comment est-ce que ça s'appelle celle-là? La quoi?
La Sommeur,
ouais, la Bible du Sommeur. C'est des bonnes versions de lecture. Les choses de l'Esprit, que Paul dit, sont ce que l'Esprit Saint a dévoilé, ce qu'il a révélé. La parole de Dieu, l'épée de l'Esprit Saint. Hein, Paul dit dans Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu. Jésus même a utilisé la parole de Dieu pour résister à la tentation. Hein? Souvenez-vous, dans Matthieu 4, Jésus a répondu à Satan, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Satan voulait l'induire, autrement dit, ou le tenter avec la nourriture. Ça faisait 40 jours, il n'avait pas mangé. Au verset 7, Jésus répondit à Satan, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, présentant des richesses. » Et enfin, au verset 10, il dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le Seigneur s'est servi de la parole justement pour éloigner Satan. La parole, l'esprit, Satan la gère. Ceux qui sont conduits par l'esprit ne sont point sous la loi. Et on peut comprendre les versets là, qu'on a vu voir, le verset 17, c'est-à-dire de deux manières, excusez-moi. Premièrement, conduit par l'esprit s'applique à tout chrétien. Deuxièmement, et il en découle qu'aucun chrétien est sous la loi vu qu'il ne dépend pas de ses propres efforts. Pourvu qu'il ne dépend pas de ses propres efforts. L'esprit, c'est lui l'esprit qui résiste aux tendances mauvaises. C'est pas nous autres. C'est pas le chrétien lui-même. C'est pas le chrétien lui-même qui résiste aux tendances mauvaises. Non, le chrétien lui-même, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'abandonne à l'Esprit Saint. Viens à mon aide. Être conduit par l'Esprit, frères et sœurs, signifie que nous sommes élevé au-dessus de la chair et on se préoccupe du Seigneur. C'est ça qu'on fait. Et cette préoccupation-là va nous empêcher de se laisser absorber par la loi ou par la chair. L'Esprit de Dieu ne tourne pas les regards des croyants vers la loi comme moyen de justification. On n'est pas justifié par nos propres œuvres. L'Esprit de Dieu nous tourne, au contraire, vers le Christ qui est ressuscité, comme on a célébré ce matin, qui est la seule raison pour laquelle Dieu va nous accepter. Et cela dit, c'est-à-dire, nous marchons selon l'Esprit par étapes, c'est-à-dire progressivement, et nous suivons la parole de Dieu qu'il a lui-même révélée. Alors, qui allons-nous servir? La question-là a été posée souvent au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Qui allons-nous servir? Les désirs de la chair? Ou l'Esprit de Dieu. Si on choisit l'Esprit de Dieu, c'est ce que j'espère. Faisons-le avec humilité. Et un seul des deux choix va nous offrir une vie et la paix. L'autre choix, malheureusement, c'est la mort et l'empêchement à servir Dieu. Paul dit dans Romains 8, versets 6, 7 et 8, « Et l'affection de la chair, le fait que j'aime la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, c'est la paix. » car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je conclue en disant ceci. Dans les versets, dans les présents versets, verset 16, verset 17 de Galates 5, Paul répond justement à la question sous-entendue: que signifie vivre selon la chair et que signifie vivre selon l'esprit? Ce que Paul a fait ce matin, c'est qu'il nous explique que la première expression signifie s'affectionner au présent, continuer à penser à ou à aspirer aux choses de la chair. Un incroyant ne pense qu'à ses propres intérêts personnels. Et il veut absolument rien savoir de tenir compte de Dieu. Le contraire est également vrai de ceux qui vivent selon l'Esprit. Ils aspirent ou s'affectionnent aux choses de l'Esprit Saint. La chair et l'Esprit qui habitent en nous sont en conflit, comme on le dit. Et dans sa marche, le croyant doit dépendre du Saint-Esprit qui habite en lui pour être guidé, dirigé, investi de la puissance nécessaire pour vivre la vie chrétienne. Et lorsque le chrétien se laisse contrôler par l'Esprit, il a l'assurance qu'il n'accomplira d'aucune façon les désirs de la chair. Donc, ainsi donc, frères et sœurs, bien qu'aucun croyant ne soit entièrement libéré dans sa vie terrestre des désirs pécheurs inhérents à son ancienne nature d'homme déchu, les chrétiens ne doivent pas s'avouer vaincus. Il y a toujours de l'espoir. Le message ici, ce n'est pas de condamner personne. C'est de dire, il y a un Dieu, un bon Dieu, qui veut que le combat qui existe dans ta vie soit contrôlé par l'Esprit Saint qu'il t'a donné. Si tu viens à lui, si tu te repens de tes péchés, si tu crois en Jésus-Christ, son Fils unique. L'affranchissement de la puissance du péché est offerte par la mort de Jésus-Christ. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, que nous pouvons le connaître, connaître Jésus-Christ, dans notre marche de tous les jours. Amen.